Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir noté ce nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec, bien sûr, un nouvel invité. C'est Virginie Dupérou qui va nous accompagner. Bonjour Virginie.
Bonjour Yannick, bonjour à tous les auditeurs.
Merci à vous d'être venu de Nevers devant notre micro. Pour évoquer votre ouvrage paru chez Véronne Éditions, ouvrage qui est un témoignage, hein, on va y venir, qui a pour titre « Amiante et mensonge, notre perpétuité », avec ce si beau sous-titre « Clin d'œil littéraire », nous y reviendrons aussi, « Journal de Paul et Virginie ». Virginie Dupérou, est-ce que je peux vous demander en quelques secondes de vous présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Bien sûr, je suis la fille et la petite fille de victimes environnementales de l'amiante, décédées de mésothéliome, c'est-à-dire de ce cancer spécifique qui touche la plèvre, le péricarde ou le péritoine, qui est vraiment le signe d'une exposition à l'amiante.
Alors, vous avez perdu votre papa, Paul, en 2015. Votre papa donc est décédé des suites d'un cancer, ce qu'on appelle le cancer de l'amiante, mais le nom médical, c'est le mésothéliome, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait.
Votre papa avait 72 ans lorsqu'il nous a quittés, et vous êtes sa fille unique, 73 peut-être ?
Oui, il avait 73 ans, il venait d'avoir 73 ans, il ne les faisait pas du tout. C'était un homme en apparente pleine santé, au corps musclé par 42 années de carrelage, entre autres. Il était carreleur, mosaïste, marbrier. Il était attrier aussi, ce qui veut dire qu'il dessinait, il concevait ses cheminées. Il n'a jamais fait un seul modèle semblable à l'autre.
Alors, vous êtes fille unique et dans votre témoignage, bien sûr, il y a le calvaire de votre papa. Parce qu'avec ce témoignage, on déambule dans les couloirs de différents hôpitaux, chimiothérapie, médicaments, équipe médicale. Il est vrai que j'ai lu votre livre un tout petit peu avant Noël l'année dernière pour en parler en ce début d'année sur Radion. Et c'est vrai que c'est pesant, on sent ce poids terrible, mais aussi toute l'énergie dont vous faites preuve pour accompagner votre papa vers ce que vous pensiez peut-être être le moins pire, si je peux me permettre. Néanmoins, l'issue a été fatale. Alors, ce que je voudrais dire aussi, il y a plusieurs strates dans ce livre. Il y a ce témoignage, c'est un livre de combat, c'est un réquisitoire, c'est aussi l'amour d'une fille unique pour son père. Vous dites d'ailleurs, je suis ton clone au féminin. À un moment, vous écrivez, je t'aime plus que ma vie. Et dernière citation, « Nous sommes un, je le sais depuis toujours ». Alors, on va essayer de ne pas activer le chagrin devant le micro, mais en tout cas, c'est une promesse que vous avez faite à votre père, presque sur son lit de mort, c'est-à-dire que vous vendez ce témoignage au profit de l'association qui répertorie les victimes de l'amiante, et des victimes de l'amiante, il va y en avoir encore, on en reparlera. Mais le but de ce témoignage, c'est le combat de votre vie désormais, Virginie.
Oui, c'est ça, c'est le combat de ma vie, c'est ma raison de rester sur Terre. C'est vrai que Paul et moi, bon, j'appelais mon père par son prénom, Paul et moi, on était très très proches et avant de quitter ce monde, il m'avait demandé d'aider à faire cesser cet état de non-droit. C'est une promesse que je lui ai faite. J'ai trouvé ce moyen, c'est-à-dire qu'il avait laissé des notes et moi j'en avais pris quelques-unes aussi. 8 mois après son décès, j'ai rencontré Annie Thébaumoni qui m'a fait la préface.
Alors c'est Annie Thébaumoni qui est sociologue, chercheur en santé publique et qui a été la compagne ou qui est la compagne de Henri Pezra, qui lui-même était chercheur au CNRS, toxicologue, et qui a été un des premiers en France à avoir dénoncé le scandale médical de l'amiante.
Henri Pezra est décédé en 2009, et Annie Thébaumoni, depuis, est à la tête de l'association Henri Pezra. Et elle a créé aussi le réseau Ban Asbestos. Ban Asbestos, ça veut dire bannir l'amiante en anglais. Elle l'a créé en 1994 avec une inspectrice du travail brésilienne, Fernanda Gianasi, et des associations Ban Asbestos. Il y en a dans le monde entier. C'est au profit de cette association que je vends ce livre.
Alors ce livre de combat, vous le revendiquez comme un livre de combat?
Oui, tout à fait, tout à fait.
A été chroniqué dans Charlie Hebdo, j'avais vu d'ailleurs en son temps trois quarts de page dans Charlie Hebdo, donc c'était le 16 mai 2018, votre livre est sorti, hein, donc au printemps, premier trimestre 2018, livre chroniqué donc par Fabrice Nicolino avec ce titre « L'immense crime social de l'amiante ». Alors, le combat continue aujourd'hui, Virginie. Je sais que votre temps est précieux à côté de votre activité professionnelle, mais vous êtes militante, vous donnez des conférences sur le drame de l'amiante. Ce témoignage, ce n'est pas qu'un témoignage écrit, c'est aussi le témoignage d'une fille vivante, combative, souriante et qui apparemment n'a pas peur de grand-chose, en tout cas pas de l'usure.
Non, non, j'ai pas peur de grand-chose puisque je n'ai que la vérité à dire et à vendre, c'est tout. Donc quand des médias s'intéressent à ce que j'ai fait, que ce soit la télévision, j'ai eu par exemple un reportage sur Paris, Île-de-France, France 3, j'ai participé à quelques émissions de radio. Et quand je rencontre des journalistes, ben non, j'ai pas peur parce que je ne dis que la vérité, c'est-à-dire que je dénonce une situation dont on ne parle plus. L'amiante a été interdit en 1997 en France, notamment grâce à Henri Pezerra qui a été à la base de cette lutte initiée dans les années 70 alors que son discours était très minoritaire. Effectivement, il était toxicologue, chercheur au CNRS et il a commencé à dénoncer ce crime social, il n'y a pas d'autre mot, quand il a parlé dans les médias de la faculté de Jussieu à Paris qui était bourrée d'amiante. Ça a commencé comme ça. Et à ma petite mesure, j'interviens partout où on m'appelle, que ce soit pour des conférences, des débats, des dédicaces, des émissions, pour continuer à parler de tout ça. Parce que bien qu'interdit en 1997, l'amiante tue tous les jours. Il y a 10 morts par jour en France. Il y en a plus de 100 sur la planète. Et puis... on n'en parle plus. Pour la plupart des gens, c'est un scandale qui est oublié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ça continue, à cause du temps de latence, les médecins parlent d'un temps de latence pour la survenue du mésothéliome de 20 à 40 ans, ce qui est une hérésie, parce qu'on a des cas qui développent ce cancer bien avant les 20 ans. Il y a le cas d'un monsieur qui était riverain d'une usine éternite. Francis Hamon est décédé à 28 ans par exemple, et puis il y a des personnes qui vont être exposées toute leur vie et qui vont le développer à 90 ans passés. Donc il y a ça, il n'y a pas de traitement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, alors que de nombreux médecins continuent à dire que le traitement en cours, le traitement validé en 2006 est efficace, ce qui est faux. Permet une survie et dans quel état de quelques mois. Et puis surtout, il n'y a pas de procès pénal.
Alors ça, c'est l'affaire juridique. Ça, c'est un point aussi pour lequel l'association se bat. C'est que pour l'instant, en France, y a-t-il eu des personnes reconnues victimes professionnelles de l'amiante ?
La plupart des victimes de l'amiante sont des victimes professionnelles, on va dire à plus de 90%. La spécificité de ma famille, c'est que ce sont des victimes environnementales. Il y a des reconnaissances, oui, au civil, tous les procès sont gagnés. Il y a un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il y a des reconnaissances en maladie professionnelle. Alors ça, en général, c'est un parcours du combattant incroyable. Il y a des fautes inexcusables de l'employeur aussi qui sont prononcées. Par contre, au pénal, il n'y a rien, il n'y a pas de procès. Les associations, que ce soit Ban Asbestos, que ce soit Henri Pezerra ou les sections de l'Andeva, de la CAVAM, etc. Toutes les associations de victimes de l'amiante le demandent. On va défiler, d'ailleurs, on défile une fois par an à Paris au mois d'octobre. Il n'y a plus de médias, pratiquement. On le demande, ce procès pénal, et pour l'instant, il ne vient pas.
Est-ce qu'il y a une justice aux ordres par rapport à l'amiante en France?
C'est mon opinion, et cette phrase, elle est d'ailleurs pas de moi à l'origine. Elle est d'une juge, une ancienne juge du pôle santé publique, Marie-Odile Berthella-Geffroy, qui, lors d'un congrès, l'a prononcée. J'étais là, je l'ai entendue. Elle a été démissionnée, cette femme. Elle mettait un petit peu trop le nez dans toutes ces affaires-là. Et puis, bon, elle avait trouvé des pistes qui mettaient vraiment en cause les industriels. Il aurait pu y avoir des procès. Elle a été mise à la porte. Donc oui, je pense personnellement, en tout cas, que ce qu'on a affaire à une justice aux ordres dans ce scandale-là, comme dans le scandale des pesticides qui est en cours et qui est à venir, à la parallèle est là.
C'est Virginie Dupérou qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre. Nous sommes avec elle jusqu'à midi pour son témoignage « Amiante et mensonges, notre perpétuité », journal de Paul et Virginie. Vous n'êtes pas venu qu'avec un livre, vous êtes venu avec un choix de musique, d'intermèdes musicaux. Que souhaitez-vous que nous écoutions d'abord ?
Et je mettrais bien la chanson de Bernard Lavilliers, État des lieux.
Alors, État des lieux, et puis nous sommes ensemble jusqu'à midi, on retrouve notre invité juste après Bernard Lavilliers.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les superproductions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition, on va payer. Je vois des océans couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature a su, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Amiante et mensonges, notre perpétuité, journal de Paul et Virginie, témoignage de Virginie Dupérou sur le combat mené aux côtés de son père dans la maladie. Un papa exceptionnel aussi, parce qu'il y a des pages sur lui. Un homme, alors je dirais un ouvrier, un carreleur, mais un homme curieux lecteur, pensée un peu anarchiste, aimant Brassens, aimant Léo Ferré, encore que Brassens, c'est peut-être un nanar de droite, hein, plutôt. Non, pas forcément.
Exprimez-vous, non, Virginie. Je pense pas. Oui, Paul aimait beaucoup Brassens, pardon, Ferrat aussi. Son préféré, son chanteur préféré, c'était Ferrat. Il connaissait Ferrat et Aragon par cœur. Il aimait Barbara, il aimait Lavilliers, il aimait tout un tas de gens. Johnny Clegg énormément aussi.
Renaud,
bien sûr.
Mais comment se fait-il, Virginie, que vous ayez eu presque Paul et vous dans les goûts, qu'ils soient littéraires, musicaux, artistiques, même petite fille, vous préfériez aller sur le chantier avec lui plutôt que d'aller faire vos devoirs.
Oui, oui.
Comment se fait-il ? Bon, vous êtes fille unique, mais il y a une symbiose entre vous deux qui est extrêmement touchante et bien rendue d'ailleurs dans votre livre.
Je vous remercie Yannick, mais c'est vrai que tout ça c'était normal pour moi, je ne me posais pas tellement la question, on était similaires en beaucoup de choses. Une seule chose nous différenciait au niveau artistique, c'est que j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours la musique de Michael Jackson. Bon, bah, Paul aimait certaines chansons et puis quand j'ai voulu aller le suivre en tournée, chose que j'ai faite, j'ai eu la chance de le rencontrer d'ailleurs plusieurs fois. Il m'a encouragé à le faire, il n'était pas plus touché que ça par son art, mais oui, je ne sais pas, oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup de points communs, c'était comme ça, c'était normal, on était sur la même longueur d'onde, et puis il y a quelque chose aussi qui nous rapprochait, que j'évoque pas forcément dans le livre, c'est que évidemment mon père m'a vu grandir, et qu'en grandissant je me suis mise à ressembler physiquement, en tout cas de plus en plus à sa maman. Simone, ma grand-mère paternelle.
Elle-même emportée
par un mésothéliome. Enfin, à l'époque, en 1978, j'ai 5 ans. Je vais la perdre, on va la perdre en 10 mois de ce cancer foudroyant auquel on ne comprend rien, rien du tout. Parce qu'à l'époque, on ne nous parle pas d'amiante. On fera le lien uniquement dans les années 90, quand justement Henri Pezerra va commencer à parler de ce scandale et du lien entre amiante et cancer de la plèvre. Et
parce qu'en fait, pardonnez-moi Virginie, ce que vous expliquez, c'est que le corps médical ne veut pas forcément, il n'y a pas que des gens malhonnêtes, hein,
bien
vous
sûr.
Le montrez dans le témoignage, vous avez de l'agacement contre des comportements verbaux, des réflexions, manque de psychologie de certains infirmiers, infirmières, aides-soignantes.
Pneumologues aussi.
Pneumologues, hein, même dans les professeurs, certains sont quand même pétris de certitudes. Bon.
Et de mensonges.
Alors ça, on aura l'occasion de revenir justement sur l'environnement de l'hôpital, où vous avez, il y a quelques pages un peu, comment dire, sévère, en tout cas, de votre part. Mais le corps médical, finalement, s'est longtemps réfugié devant le fait que ce cancer de l'amiante, oui, mais la personne était fumeur. Ah, mais non, c'est un cancer du poumon lié au tabagisme. Et ça, justement, aujourd'hui, le regard de la médecine a changé tout de même.
Mais écoutez, là, on revient, par exemple, on est allé à Rouen, récemment à Vierzon, là, il y a quelques temps. Bon, dans toutes les villes où on passe, Saint-Nazaire, je ne vous raconte pas l'hécatombe avec les chantiers navals, et partout, on a le même discours. C'est-à-dire qu'il y a des victimes de l'amiante qui ont la chance, dans leur malheur, d'avoir affaire à un corps médical honnête. Et puis, ben, il y a des endroits où ben, ce n'est pas le cas du tout. J'ai le témoignage d'un ami, Thierry, en tête, qui est bénévole à l'ADEVA 76, donc Association d'aide aux victimes de l'amiante à Rouen, qui m'a dit récemment, il y a une trentaine de pneumologues sur Rouen, on en a 4 ou 5 qui simplement reconnaissent l'exposition à l'amiante. 4 ou 5. Alors, reconnaître l'exposition à l'amiante, c'est une chose. Après, il y a le comportement par rapport aux patients durant la maladie. En ce qui nous concerne, nous, ça a été catastrophique, la prise en charge de mon père, absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'au départ, on va lui dire « vous êtes jeune », c'est vrai que Paul paraît jeune.
Il a 72 ans en 2014.
Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il n'en fait pas, il en fait pas 60. Et il paraît jeune, vraiment, il est jeune d'esprit, il a un corps sculpté par son travail. Il a l'air comme ça en pleine forme à le voir. Et on va nous mentir sciemment sur le protocole de chimiothérapie, validé en 2006 sous l'ère Borloo, d'ailleurs. C'est un protocole mondial, ça, ce n'est pas un mensonge. Par contre, Le mensonge réside dans le fait de nous avoir dit que ce protocole allait fonctionner. Et partout où je passe en France, j'ai des témoignages similaires aux miens. Ce protocole de soins, cisplastine Alimta, ne fonctionne pas. Alors, pour quelques personnes, il arrive à prolonger un petit peu la vie. Mais pour ce qui nous concerne, ça n'a pas été du tout. Le mensonge a été récurrent du début à la fin. Quand mon père commençait à s'essouffler et quand on a posé la question de savoir ce qui causait cet essoufflement, alors qu'au tout début, quand il a été diagnostiqué, il n'était pas essoufflé, quoi. Ben, on nous répondait que c'était la désaccoutumance à l'effort. Voilà ce genre de d'ânerie, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, ça a été de pire en pire, quoi. La prise en charge a été catastrophique. C'est pour ça que j'insiste absolument, dès que je le peux, en conférence ou ailleurs, pour dire qu'il faut absolument, absolument que le patient, à chaque fois, soit orienté vers un centre mésoclin, c'est-à-dire un centre spécialisé pour la prise en charge du mésothéliome. Alors là, je vais annoncer quelque chose qui est assez récent. On a reçu, il y a quelque temps, en décembre, on avait demandé toujours à l'hôpital qui avait pris mon père en charge le stade de sa maladie, le grade, le stade, et on n'a jamais eu de réponse. On courait après les documents, ça a été une horreur aussi à ce niveau-là, au niveau administratif. Et là, on l'a su en écrivant au centre Léon Bérard à Lyon, qui classifie les mésothéliomes. Mon père était au grade 2 sur 4 et il était préconisé qu'il soit envoyé dans un centre mésoclin. Non seulement on n'en a jamais entendu parler et le grand public ne connaît pas ce centre, ce réseau de centres experts, c'est la première chose, ça il faut absolument que les gens le sachent. Donc nous, on ne nous parle pas de ça et puis on pense... Alors qu'est-ce que ça aurait donné? On ne sait pas. Essayer des thérapies, il y a des personnes qui essaient ça, comme le professeur Cherperel de Lille, qui demande des crédits à corps et à cri, qui est dévoué à la cause des victimes de l'amiante pour rechercher des protocoles de soins. Dans notre cas, en tout cas, puisque le grade n'était pas, c'était pas 3 ou 4 les plus graves, on aurait dû orienter mon père où il le fallait. Or, voilà, on est en 2020, nous n'avons connu le grade de sa maladie que fin 2019. Il faut quand même le faire, c'est quand même un record de malhonnêteté.
Record de malhonnêteté, mais est-ce à dire incompétence de la médecine, connaissance insuffisante de la médecine sur le cancer de l'amiante, négligence? Paul est une victime, est-ce qu'il y a de réels coupables?
Ah, pour moi, oui. Dans sa préface, Annie Thébaumoni, à juste titre, parle de négligence coupable. C'est-à-dire que pour moi, cette affaire de l'amiante, elle touche surtout la catégorie ouvrière et on a affaire à une médecine de classe. C'est-à-dire que au plus haut niveau, les ministres de la Santé successifs, et c'est le cas avec Madame Buzyn actuellement, qui en juin 2017 déclarait que les victimes de l'amiante coûtaient déjà bien assez cher à la sécurité sociale, ce qui est vraiment inqualifiable, eh bien, on a eu affaire à des ministres de la Santé successifs qui ne se sont jamais penchés sur des études de cas pour ce cancer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit, on administre la même chose à tout le monde, et puis tout le monde meurt dans le silence et dans la pire des souffrances, parce que c'est un étouffement à petit feu, une mort à petit feu, et que je ne souhaite à personne, quoi. Donc oui, bien sûr, il y a des gens qui sont coupables. Il y a aussi, il y a des professionnels de santé qui, à l'opposé, vont être honnêtes, mais qui ne savent pas que pour qu'une victime puisse bénéficier de ses droits, ce qui est le strict minimum, il faut un certificat médical initial qui ouvre à la reconnaissance en maladie professionnelle, par exemple. Et bah, tous les médecins ne le savent pas. Il faudrait que l'information soit diffusée davantage. Il y a des associations qui s'y emploient, mais il y a vraiment beaucoup de travail vu le nombre de médecins en France. Et puis, bah, il y en a d'autres qui, à l'opposé de ces médecins honnêtes, vont faire preuve, comme ceux à qui on a eu affaire, de malhonnêteté. C'est-à-dire que bah, ils vont mentir sur le protocole. Ils vont nous dire que le traitement va fonctionner alors que ce n'est pas le cas. Et ce que j'ai pu constater en allant témoigner un petit peu partout, c'est que souvent on a affaire à des médecins en milieu hospitalier ou en cabinet privé d'ailleurs, qui ont été par exemple médecins du travail dans des entreprises où l'amiante a été massivement utilisée et qui, pour ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à l'entreprise qui les employait, ont sciemment menti. Bon, je sais que dans l'équipe qui avait mon père entre ses mains, il y en avait un comme ça qui est parti en retraite depuis. Et ce médecin, ce pneumologue, Neversois, avait travaillé pour les aciéries d'Infi, où l'amiante avait été massivement utilisée. Aux ateliers SNCF de Varennes-Vauzelles aussi. Pareil, hein, une utilisation massive et des victimes toujours là, actuelles, malgré l'interdiction en 1997. On a fait une intervention, j'ai fait une intervention là sur Nevers le 18 décembre et j'ai rencontré encore des victimes de l'amiante des ateliers SNCF de Varennes-Vauzelles, même des personnes qui ont été très très peu exposées et qui développent ce cancer après des décennies.
Amiante et mensonge, notre perpétuité, journal de Paul et Virginie sous la plume de Virginie Dupérou qui est aujourd'hui devant notre micro. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci dans au milieu de notre échange ?
Mais j'écouterai bien Johnny Clegg.
Alors Johnny Clegg, Asim Bonangas, c'est, j'espère que je l'ai bien dit.
Oui, c'est ça. Certain.
En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On retrouve Virginie Dupérou dans une poignée de minutes. Asim Bonangas, Asim Bonangu Mandela Tina, la pekona, la pefelikona. Asim Bonangas, Asim Bonangu Mandela Tina, la pekona, la pefelikona.
Hey, when I'm ini la siako na la siako. Awiti yei wena,
yei wena,
yei wena, yei wena nawe.
Sofi ganini la siako na la siako.
Hati bonanga.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le scandale de l'amiante est au cœur de notre émission aujourd'hui avec notre invitée Virginie Dupérou qui signe un témoignage sur la disparition de son papa Paul, mort en 2015, des suites de ce qu'on appelle un cancer de l'amiante, mais le nom médical c'est le mésothéliome. L'ouvrage est vendu au profit de l'association
Ban Asbestos France.
Amiante et mensonge, notre perpétuité. Comment Paul a-t-il été contaminé par l'amiante? C'est le terme adéquat?
Oui, tout à fait. Alors, on s'est posé la question, bien évidemment, puisque quand sur un premier document apparaît le mot amiante avec un point d'interrogation, c'était un scanner, on s'est regardé tous les deux et on s'est dit, c'est pas possible. Parce que comme ma grand-mère était déjà décédée de ce cancer, on s'était posé la question, toute sa vie, mon père s'est posé la question, où est-ce que ma mère a pu être contaminée? C'est-à-dire que ma grand-mère n'avait pas travaillé l'amiante du tout, elle ne vivait pas dans un environnement qui contenait de l'amiante, et puis malgré tout, elle développe ce cancer et elle décède en 10 mois. Alors, 37 ans plus tard, c'est au tour de Paul, et là la question se pose à nouveau. Comme il avait perdu sa maman de ce cancer aussi terrible que foudroyant, il avait et depuis qu'on avait fait le lien avec l'amiante, avec le témoignage d'Henri Pezra dans les années 90, mon père s'était dit, il s'était demandé si lui-même avait été exposé. Il avait fait le bilan de sa carrière professionnelle et il estimait avoir été exposé en de très 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 rares occasions. Entre 1985 et 1988, jamais en milieu fermé et l'amiante n'était jamais sous sa forme friable. C'était vraiment, ça pouvait se compter même pas sur les doigts d'une main. Il connaissait la toxicité de ce produit. En plus, c'était quelqu'un qui était très proche de la nature, qui s'intéressait vraiment à tout ça. Donc là, quand le diagnostic, quand le couperet tombe, au début on ne comprend pas. Et puis, Paul est diagnostiqué depuis 2 mois, il suit son protocole. Et un jour, mes parents, comme tous les jours d'ailleurs, vont acheter leur journal, c'est Le Parisien aujourd'hui en France, en date du 26 novembre 2014. Et là, à la une de ce journal, on lit « Empoisonné sans le savoir ». Et on découvre qu'à Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, 93, où mon père est né, où il a vécu les 19 premières années de sa vie, avant de venir s'installer dans la Nièvre avec ses parents. Eh bien, à Aulnay-sous-Bois, il y avait une usine. Mon père se souvenait bien, oui, c'était l'usine pour tous les gosses. Mais cette usine, le CMMP, le comptoir des minéraux et matières premières, s'est installée là en 1938, avec la complicité des autorités, notamment de la préfecture. Il y a des documents qui l'attestent, que l'on trouve sur le site de Ban Asbestos France. Et puis ces gens-là ont broyé de l'amiante bleue, c'est-à-dire la plus toxique des 3 variétés, même si les 3 sont hautement cancérigènes. Ils se sont installés là et pendant des décennies, en plein cœur du vieux pays, en plein centre-ville, au milieu de 3 écoles, Eh bien, ils ont fait leur macabre broyage pour l'industrie. Alors, au début, au profit de l'armée. Et puis après, pour de multiples industries, l'amiante a été utilisée en France dans plus de 600 produits.
Alors, vous évoquez l'impunité qui reste totale. C'est page 474, PDG, préfet, contrôleur de l'époque de la pollution, responsable des malades et des morts d'aujourd'hui, ne sont plus en vie pour pouvoir rendre des comptes. L'entreprise CMMP, c'est-à-dire le comptoir, aidez-moi Virginie.
Des minéraux et matières premières qui existent encore, qui a délocalisé dans l'Aisne en 1991, sentant certainement que l'interdiction de l'amiante allait s'approcher, le CMMP d'Aulnay-sous-Bois, avec sa PDG actuelle, Joëlle Briot, troisième génération de femmes PDG de l'entreprise, délocalise donc dans l'Aisne. Et puis, ces gens-là vont laisser les lieux en l'état, c'est-à-dire que le CMMP, qui donne sur la cour de l'école du Bourg, il faut quand même le faire, ils étaient mitoyens de l'école, le CMMP va être démonté, dépollué, sous cloche, en 2009, uniquement grâce aux associations, pour qu'il n'y ait pas une contamination supplémentaire. Ce
n'est donc pas une décision politique.
Ah non, à l'époque, les associations demandent au ministère de l'Environnement à ce que ce lieu soit détruit, mais le ministère de l'Environnement estime que la mise sous cloche, sous confinement étanche, c'est pas quelque chose d'indispensable. Alors ils auraient provoqué une seconde épidémie. Alors, il faut savoir quand même que tous les gosses qui ont été à proximité, les riverains comme ma famille, et il y a si longtemps, parce que ma famille avait quitté les lieux en 1961, donc le temps de latence pour mon père a été très long. Tous les gosses, tous les petits Paul, les petits Ahmed, les petits Daniel, là je cite les noms de ses amis d'enfance, eh bien, qui ont pataugé dans l'amiante, respiré l'amiante, qui ont fait de ce lieu leur terrain de jeu, puisque évidemment, c'était tentant d'aller dans une usine désaffectée. Tous ces gens-là, tous ces gosses, peuvent potentiellement tomber malades. Donc sur Aulnay, là, ça va être encore terrible pendant au moins 3 générations. Au moins, l'industriel, lui, est délocalisé et puis continue son activité sans l'amiante, interdit en France en 1997, je le rappelle. Mais la dépollution, la déconstruction, c'est un autre scandale dans le scandale. Ce sont les Aulnaysiens qui l'ont payé, pour la plupart les Aulnaysiens malades. La dépollution du site, déconstruction, a coûté 16 millions d'euros. L'industriel a dû payer 480 000 euros, c'est-à-dire 3% du prix total. C'est la double peine pour les Aulnaysiens.
Mensonge, amiante et mensonge, notre perpétuité, journal de Paul et Virginie, une Virginie du Pérou très... très informée au cœur de ce sujet. Qu'écoutons-nous comme troisième intermède musical au cours de notre entretien?
J'écouterais bien Leonard Song de Renaud. Alors Leonard Song, c'est sur Léonard Pelletier, le plus vieux prisonnier politique du monde. Mon père faisait partie de son comité de soutien. J'en fais partie aussi. Et il y a un petit clin d'œil aussi à ce que je pense être l'ouvrage préféré de mon père parmi les centaines qu'il a pu lire, qui s'appelle « Enterre mon cœur à Wounded Knee », qui est sur le massacre des Indiens américains et notamment des Sioux Lakota. Voilà.
Alors, place à Renaud, Leonard Song, et on retrouve notre invité Virginie du Pérou juste après cette virgule musicale.
De tes frères génocidés naguère sur ce qui fut la terre sacrée de tes ancêtres, et ils sont toujours fiers du général Custer, des héros légendaires de la conquête de l'Ouest, du Buffalo Bill, ce con qui tuait les bisons, comme on tire aux pigeons, débile Buffalo, de David Crockett, ce fou dont les renards, les loups se souviennent surtout parce qu'il leur fit la peau. Oh, verras-tu ces mots de derrière tes barreaux, Léonard. Du fond de ta cellule, dis-leur qu'on les encule, ces connards. Ce peuple de barbares, ce pays blanc et noir, a construit son pouvoir sur le sang des Cheyennes. Mais les livres d'histoire ont perdu la mémoire. Pas un mot à la gloire de ces nations indiennes qui respectaient la vie et la terre et ses fruits et prêtaient aux fourmis une âme magnifique. Pas de drapeaux en berne pour qu'un môme se souvienne de cette Shoah ancienne qui a bâti l'Amérique. Entendras-tu ces mots de derrière tes barreaux, Léonard? Tu ta cellule, dis-leur qu'on les encule, ces connards. Tes frangins survivants, quelques milliers pourtant, furent bien gentiment parqués comme bétail dans des réserves sordides où vous crevez tranquille, alcool, drogue, suicide, loin du monde qui braille. Toi, tu as pris ton fusil pour refuser l'oubli, tu n'as pas leur folie, tu as tiré en l'air. Et tu as pris perpète 30 ans que tu végètes à l'ombre des tempêtes qui agitent la terre. Entendras-tu ces mots de derrière tes barreaux, Léonard? Du fond de ta cellule, dis-leur qu'on les encule, ces connards. Je suis très loin de toi, tu sais, je suis là. Tu entendras ma voix un jour dans les nuages. Au pays de Voltaire résonne la colère contre ces tortionnaires qui t'ont jeté en cage. Puis un jour ma chanson au mur de ta prison ouvrir un horizon d'amour et de lumière. Devenir un totem pour te dire je t'aime. L'innocent qu'on enchaîne sera toujours mon frère. Ces mots de derrière tes barreaux, Léonard. Du fond de ta cellule, dis-leur qu'on les encule, ces connards.
Amiante et mensonges, notre perpétuité, Virginie, c'est le titre de votre ouvrage dans lequel vous racontez effectivement le parcours, le calvaire médical, psychologique de votre père. Encore que j'ai très souvent l'impression qu'il a fait face à la maladie avec beaucoup de courage. Je ne dirais pas avec résignation, mais avec beaucoup de courage, cherchant aussi à ne pas trop inquiéter sa famille, mais c'était cela beaucoup plus compliqué.
Mais Paul a cru en la probité des médecins, déjà c'est une chose, il était à l'écoute de son corps, et puis il y croyait, oui, bien sûr,
ah oui, il
croyait
qu'il allait s'en sortir. Ah oui, il y a cette phrase magnifique, Virginie, il dit à une infirmière, les premiers temps, enfin, ses premières hospitalisations, où l'on tente d'atténuer les essoufflements, il dit, c'est une aventure avec mon corps.
Oui, tout à fait. Oui, il nous l'a dit dès le départ. Il a pris ça comme une aventure avec son corps. Il pensait vraiment, vraiment s'en sortir. Et je pense qu'il aurait été très actif à mes côtés s'il s'en était sorti, puisque quand on comprend l'origine de sa contamination, il va comprendre aussi l'origine de la contamination de sa maman et donc d'un des premiers drames de sa vie.
Et puis alors vous citez, c'est une amie de la famille qui vous envoie, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Alors il y a aussi, on est à vos côtés, hein, une Virginie qui parfois a aussi des problèmes de santé, il y a les tracas professionnels, Paul accapare beaucoup de votre temps, vous ne lui en faites bien évidemment jamais le reproche, mais pour vous tout devient compliqué, les tâches domestiques, gérer Paul, les démarches, vous montez sur le ring, hein, vous l'écrivez d'ailleurs, on monte sur le ring et la guerre est déclarée, donc vous êtes une combattante tout au long de ce livre et ça se sent bien. Il y a un aspect que je me permets d'évoquer avec vous, Virginie. De toute façon, vous l'écrivez dans votre témoignage. La foi à sa place, Bernadette Soubirou, à sa place, aller relire des psaumes, des extraits de l'Évangile. Ce sont des éléments qui vous ont apaisé et aidé aux côtés de Paul. C'est personnel, mais vous en parlez dans votre témoignage. C'est la raison pour laquelle il me permet de soulever ce
mais
point.
Je suis croyante, je ne crois pas qu'on ne soit qu'un corps. Et je le crois depuis toute petite. Alors ça, c'est ma croyance personnelle. Et ce qui m'a aidée surtout... Alors oui, vous parlez du sanctuaire de Sainte Bernadette. Je m'y rendais déjà petite parce qu'on trouve un apaisement là-bas. Mais c'est surtout la rencontre avec un jeune pasteur qui m'a fait beaucoup de bien au tout début où Paul est tombé malade. Et je pense que cette rencontre-là, elle a été décisive pour tenir le coup. Elle a été décisive aussi quand mon père nous a quittés. Parce que j'avais bien envie de le suivre, je le cache pas. La vie sans lui, 4 ans, 4 mois après, c'est toujours très compliqué. Et ce jeune pasteur m'a dit, mais t'as pas le droit.
Vous avez été tentée par le suicide ?
Bien sûr, oui, j'y ai pensé. Tout l'été 2015, quand je voyais mon père se dégrader, qu'il ne pouvait plus manger correctement, alors qu'on nous avait annoncé un second protocole de soins, parce que dans l'affaire, il y a un premier protocole, on nous dit tout va aller, on nous annonce une rémission qui est en fait... n'a été qu'un leurre, et puis au premier contrôle, on nous annonce que ça recommence, qu'il faut reprendre le traitement, donc ils changent une molécule qui est soi-disant plus supportable, mais je vais voir mon père se dégrader tout au long de l'été 2015, et puis je vais le voir perdre l'appétit, donc je me sens même plus le droit, moi, de manger, je deviens squelettique, je suis complètement anéantie, je cherche des pistes sur Internet pour trouver des traitements alternatifs, je trouve pas, je vais trouver bien tard sur un site américain, mais bien tard, malheureusement, bien trop tard. Oui, j'ai été tentée par ça. De toute façon, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et puis le jour où il part, c'est le chaos, quoi. C'est le chaos total.
Dans le livre, bien sûr, vous racontez vos difficultés à rester debout pour épauler Paul, parce qu'il s'agit de ne pas flancher. Il faut vraiment aussi combattre avec Paul. Et par rapport, alors c'est amusant parce que vous parlez de la foi, puis il y a toujours la Virginie aussi qui intellectuellement, politiquement, se pose des questions ou est révoltée. Et par exemple, vous écrivez « Je ne comprends pas », donc c'est au moment où vous lisez les évangiles, « Je ne comprends pas en les découvrant pourquoi les femmes n'ont pas une place centrale depuis plus de 2000 ans dans notre civilisation judéo-chrétienne. Leur rôle est prépondérant dans les Écritures. Preuve qu'une fois de plus, l'homme a bien fait ce qu'il a voulu. » Virginie, très féministe.
Bien sûr, je suis féministe et mon père l'était aussi d'ailleurs. Il disait que les femmes devraient avoir une place plus grande dans notre société. Il le disait à qui voulait bien l'entendre.
Et alors vous écrivez, alors Virginie, permettez-moi, là, vous qui êtes femme, vous écrivez « Je ne ferai pas d'enfant. Le monde est surpeuplé, dégueulasse, et des gosses, il y en a malheureusement plein les orphelinats. »
Oui, alors des gosses, il y en a plein les orphelinats, c'est Renaud qui me l'a inspiré ça, même si lui-même en a eu des enfants, dont il est très heureux et très fier. Mais non, moi il était hors de question, j'ai lu les écrits parce qu'on peut être croyant et libertaire, hein, c'est pas antinomique, la preuve, je suis là.
Et j'ai lu ça qui m'avait surpris, parce que lors de notre première rencontre, je crois en octobre 2019, oui. Dans un petit salon de la Nièvre, j'avais perçu un filon politique entré très, très à gauche, marqué très, très à gauche.
Oui, c'est même plus que ça, oui, c'est vraiment libertaire.
Et quand j'ai vu que vous lisiez les évangiles, alors je ne dis pas que c'est incompatible, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de baroque au sens... d'irrégularité comme ça le personnage, qui est très intéressant d'ailleurs.
C'est pas très courant peut-être, je sais pas. Moi je m'intéresse à tout, donc mon
sauf
père...
à Noël. Hein.
Ah Noël, non, mais c'est devenu une fête commerciale.
Noël devenu pour la majorité du troupeau une fête commerciale qui m'emmerde depuis si longtemps que je ne m'en souviens plus. Avec prise de tête à la clé sur ce qui fera plaisir à qui. Je me demande surtout pourquoi, parce que les gens l'ont établi, parce que ça fait une occasion de se retrouver, parce qu'on s'en met plein la panse, sans se poser de questions, sans regarder si son voisin, lui, peut bouffer. Parce que l'ensemble cadeau Boostify donne bonne conscience.
Bah oui, non, mais c'est tout à fait ça pour la plupart des gens. Moi, il se passe pas un Noël sans que je pense à ceux qui n'ont pas grand-chose à manger, voire rien du tout, à ceux qui traversent la Méditerranée et puis qui vont se noyer en Méditerranée et puis à tous ceux qui sont délaissés dans cette société. Alors je fais au minimum, et puis alors effectivement, oui, non, les enfants, j'ai lu les écrits d'un monsieur qui s'appelle Eugène Imbert il y a bien longtemps, qui était anarchiste et qui explique évidemment dans ses écrits son choix, et je le rejoins tout à fait, c'est-à-dire que je me sens pas le droit, mais ça c'est très personnel, de mettre au monde un enfant dans ce monde-là. J'en ai pas envie, c'est tout, donc... Je persiste et je signe, mais je comprends tout à fait les gens qui font un autre choix.
Et vous écrivez, par exemple, concernant les commémorations du 11 novembre 1918, commémoration de la fin de la première grande boucherie mondiale, enfantée de la folie d'une poignée d'humains, l'assassinat de Jaurès et la suite, pour la majorité de nos contemporains, un jour de RTT acquis.
Ben oui.
J'aime bien, c'est cinglant, mais... Vous dites des vérités, effectivement.
Oui, parce que maintenant, j'ai été enseignante en présentiel pendant longtemps et je constatais que les ados, quand on leur parlait de ces dates-là, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, il y a des profs qui s'emploient à bien faire leur boulot et puis qui passent leur vie. Et bien sûr qu'il y a des gens qui savent à quoi correspond cette date, mais il y en a pour qui c'est oublié et c'est bien dommage parce que l'humanité a payé le prix fort de la folie de ces gens-là.
La folie des barbares aussi. Alors évidemment, c'est un journal qui suit les mois, les saisons, les années. Hein. Il y a le journal de Paul qui raconte un petit peu comment s'est passée sa nuit. Parfois, le journal est très, très positif, très confiant. Et puis parfois, voilà. Et il y a l'alternance. Il faut bien dire, c'est polyphonique ce témoignage, puisqu'il y a des extraits du journal de Paul et des extraits du journal de Virginie. Alors effectivement, le sous-titre « Journal de Paul et Virginie », ça rappelle Bernardin de Saint-Pierre. Hein. Ça a d'ailleurs été, on ne se rend pas compte, aujourd'hui c'est un petit peu, ça peut paraître un peu mièvre, hein, cette histoire d'amour de jeunes gens sur l'île Maurice au XVIIIe siècle, mais ça a été un succès en France absolument gigantesque. Mais effectivement, la folie des barbares, alors bien sûr, il est question des attentats, Charlie Hebdo, ça aussi, ça vous bouleverse complètement, Paul comme vous. Et puis, vous parlez d'un dessin de Rézère qui est affiché chez vous.
Ah oui.
J'aimerais que vous nous en parliez un peu, Virginie. Parce que c'est aussi un des aspects du livre, c'est cet amour que Paul a aussi pour les animaux. Et on reparlera aussi de Dalton après. Si
ah d'accord, bah oui tout à fait. Alors dans quel ordre c'est cité dans le dessin de Rézère, je ne sais plus exactement. Alors, mais
la citation,
en gros,
c'est,
il va dire...
Oui, plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de poissons.
Mais toujours des cons, voilà, c'est ça. Et je l'ai affiché chez moi depuis très longtemps. Bon, Rézère, j'ai toujours aimé Rézère. Je l'ai découvert, j'avais 13-14 ans. Et puis c'était un homme vraiment pareil, qui était... à vif, on ne peut pas dire autrement, qui est parti très tôt d'un cancer des os. J'ai quasiment toutes ses bandes dessinées et j'adore Rézère, oui, Jean-Marc Rézère, j'adore ce dessinateur. Et c'est vrai, plus de poissons, plus d'oiseaux, etc. Ben, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et notamment avec ce scandale dont je parlais tout à l'heure, parce que nous, ce qui nous touche, c'est le scandale de l'amiante, mais les pesticides, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a des espèces qui sont complètement éradiquées, qui sont décimés pour d'autres. Et par contre, l'humanité qui continue à utiliser tout ça, ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là, ils ne se posent pas assez de questions, malheureusement. Ils devraient lire le livre de notre ami Paul François, Un paysan contre Monsanto. Peut-être qu'ils changeraient d'avis après cette lecture.
Alors, je voudrais qu'on évoque aussi un aspect qui est très bien rendu dans le livre. C'est un point commun entre vous, fille unique, et votre père, Paul, c'est l'amour des animaux. On ne fait pas de mal aux animaux.
Ah,
et il y a notamment l'empoisonnement du poney Shetland de Dalton. Ça aussi, je l'ai vécu douloureusement aussi. Et effectivement, clin d'œil, empoisonnement, la volontaire des imbéciles qui ont donné du poison à ce cheval pour le faire mourir. Et puis, empoisonnement de Paul par l'amiante.
Ben oui, c'est vrai que ça s'est passé en même temps. Et Dalton était un poney Shetland qu'on avait sauvé de la boucherie.
210 kilos. quand il est
mort. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était un beau bébé. Il y a plusieurs sortes de Shetland. Lui, c'était le grand format. Et c'était un amour. Et il a été empoisonné. La vétérinaire est venue plus de 10 jours d'affilée. Et puis, on n'a malheureusement pas pu le sauver. Mais c'est vrai que les animaux ont toujours beaucoup compté pour nous deux. Donc, on en récupérait. Et puis, je continue à le faire.
Alors, justement, pour qu'il n'y ait pas d'oublié, on écoute, avant que le temps nous manque, la dernière pause musicale que vous avez sélectionnée, Virginie Dupérou. Alors, c'est Gauvin Cerce, et le titre, c'est « Les oubliés ». Et juste après, il faudra conclure, parce que l'émission est presque pleine déjà.
Alors, « Les oubliés », pourquoi ? Parce que je pense que l'album entier, d'ailleurs, de Gauvin Cerce, mon père l'aurait apprécié, vraiment. Et puis, les victimes de l'amiante ont trop tendance à être oubliées dans notre société. Voilà le petit clin d'œil, hormis le fait que le texte soit magnifique.
Les oubliés, Gauvin Cerce, on retrouve notre invité juste après cette virgule musicale.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Amiante et mensonges, notre perpétuité, c'est le titre du témoignage de notre invitée, Virginie Dupérou. Alors on est presque au terme de l'émission, il faut rendre hommage aux lanceurs d'alerte.
Oui, tout à fait. Vraiment, je rends hommage à Nicole et Gérard Voide qui ont... commencé à parler de cette affaire dès 1996, qui ont tout cherché, qui ont cherché les documents, qui ont contacté des médias avec Annie Thébaumoni et Henri Pezra et les associations locales, donc Ban Asbestos France, Olney Environnement, la DEVA 93. Nicole a perdu son frère Pierre Léonard en 1996 à l'âge de 49 ans d'un mésothéliome. Il est la première victime officielle du CMMP. J'en profite pour dire que quand mon père se signale, fin 2014, il est la 139e victime recensée par les associations de cette entreprise mortifère. On en était fin 2019 à 355 victimes recensées par les associations. Donc si vous avez habité Aulnay-sous-Bois à partir de 1938, si vous développez une pathologie relative à l'amiante, il faut absolument contacter Ban Asbestos France. Pour la reconnaissance.
Par Internet.
Et par Internet, sur le site. Oui.
Des contacts faciles. Virginie, ce livre forcément vous a transformé, j'imagine. Satisfaction et plaisir, d'une part, d'avoir couché sur le papier ce témoignage et de le partager et de le porter un peu partout, quatre coins de France, peut-être d'Europe. Hein, l'aventure, c'est une aventure avec vous-même aussi maintenant.
Oui, je tiens la promesse faite à mon père. Et puis au-delà de ça, j'essaye de témoigner pour que ce scandale de l'amiante, au-delà du CMMP, ne soit pas oublié, qu'on en parle, qu'on en reparle, qu'on sache que c'est la double peine, pas de procès pénal, pas de traitement. Et c'est juste insupportable dans la patrie des droits de l'homme.
Et je rappelle le titre, « Amiante et mensonges, notre perpétuité », journal de Paul et Virginie, c'est chez Vérone Éditions, avec une préface d'Annie Thébaumoni. Merci Virginie Dupérou d'être venue devant le micro de l'émission littéraire de Radion.
C'est moi qui vous remercie,
merci
Yannick.
Merci pour ce témoignage que j'ai lu avec émotion aussi parfois, la petite larme à l'œil qu'on a aussi dans son lit quand on lit le parcours de Paul et l'attrait aussi qu'il exerce sur nous, à la fois grand lecteur, car il aimait les livres. Et bon, moi j'y étais sensible et il aimait aussi les animaux. Puisse sa mort ne pas être gratuite et servir pour la suite.
C'est ce que je souhaite, Yannick. C'est ce que je souhaite.
Merci, Virginie Dupérou. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Et puis, bien sûr, si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez à l'écoute sur le site d'archives via Internet, c'est magique, www.yannickpetit.fr. Au revoir, Virginie Dupérou, et merci beaucoup.
Merci à vous.